Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. On va commencer un petit mot sur l'assurance chômage. BFM Business vous apporte une précision sur la réforme qui se dessine l'été prochain. Donc, il y a la question de durcir les conditions d'ouverture des droits. Il y a également très probablement l'allongement du délai de carence avant de pouvoir toucher l'assurance chômage quand on a bénéficié d'une indemnité de départ. La nouveauté, c'est qu'il y aura bien une réduction de la durée d'indemnisation dans la mesure où le ciel s'éclaircit et que le taux de chômage recule. Le salaire descend. Le patron de Michelin, Florent Ménégaud, a remis le couvert hier dans le JDD. « Je suis favorable à un plafonnement des salaires les plus élevés », dit-il. Il considère qu'il y a un déséquilibre dans la rémunération au profit du capital et au détriment du travail. Chez Michelin, on ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens, dit-il. C'est la visite de Xi Jinping à Paris. On va évoquer les enjeux économiques, évidemment, sur fond de guerre commerciale. Est-ce qu'un jour ou l'autre, il faudra se résoudre à admettre que nous avons besoin d'un peu de protectionnisme si nous voulons conserver un outil productif et des industries sur le sol européen, dans la mesure où la réciprocité ne fonctionne pas, et je doute qu'elle se mette soudain à fonctionner. Baisser les dépenses ou augmenter les taxes, c'est le titre d'un article signé Gilbert Sept dans Telos. Il est avec nous, il va nous en donner les contours. Et puis, on verra quel est le rôle des entrepreneurs dans la préparation des Jeux Olympiques. Bonjour Gilbert Sept.
Bonjour.
Bienvenue, professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié Travailler, travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions De Bock Supérieur. Je le prononce un peu à la belge parce que sinon c'est De Bock. Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Bon, les habitués auront bien compris que ce sujet sur le rôle des entrepreneurs avec les JO, c'est une idée qui vient de vous.
Écoutez, je serais ravi en tous les cas de la traiter.
Bon, bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour Nicolas Dose.
Bienvenue, directeur principal de l'OFCE. Alors voilà, Gilbert, je me tourne vers vous sur l'assurance chômage, sujet que vous connaissez évidemment éminemment bien. Donc il y aura un durcissement des conditions d'accès pour avoir... Pour être indemnisé aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois. Il y aura très probablement un allongement du délai de carence. Si vous êtes licencié ou vous négociez une rupture conventionnelle, vous avez une indemnité de départ en fonction de la taille de cette indemnité. On vous dit, vous n'avez pas droit tout de suite à l'assurance chômage et le délai de carence est de 6 mois maximum. Et BFM Business vous informe ce matin que si le chômage passe sous les 6%, on en est loin. À ce moment-là, effectivement, il y aura une nouvelle réduction de la durée d'indemnisation qui est passée à 18 mois pour les moins de 53 ans. Gabriel Attal, un temps, mais il n'en parle plus, avait évoqué l'idée de descendre à 12 mois, c'est-à-dire la durée pratiquée en Allemagne. Cette réforme de l'assurance chômage, comment la regardez-vous, Gilbert Sept ? On est en train de toucher un peu à tous les critères, y compris des critères qui ont surtout un objectif qui consiste à réaliser des économies.
Différents travaux ont montré que les durées d'indemnisation jouaient assez fortement, assez significativement sur la vitesse de reprise d'emploi.
Absolument.
Ça peut justifier une réduction des durées d'indemnisation, surtout que la France, parmi les pays de l'OCDE, est l'un des pays, sinon le pays dans lequel la durée d'indemnisation est la plus longue. Néanmoins, le gouvernement était pris dans un problème de cohérence de discours, puisqu'il a invoqué, il y a un an et demi, la contracyclicalité pour réduire la durée d'indemnisation, en disant...
Dit autrement, je réforme si voilà. Ça va bien, et je durcis quand les choses vont bien et j'assouplis quand les choses vont mal.
Absolument. Et donc la baisse du taux de chômage dont on bénéficie depuis maintenant pas mal d'années, depuis maintenant 8 ans.
Qui remontait quand même, Gilbert.
Voilà, qui remontait légèrement.
Oui, on est à 7,5%. On était à 7,1%.
Enfin, on était à 10,5%.
Oui, voilà. On est bien d'accord.
Et cette baisse du taux de chômage pouvait s'accompagner d'une baisse des durées d'indemnisation. C'était toute logique, la contracyclicalité. Baisser les durées d'indemnisation maintenant aurait été contradictoire avec le discours qu'on tenait il y a un an et demi. Donc ce qui a été privilégié est ici, si j'en crois vos informations, la cohérence du discours. On peut s'en féliciter on peut s'en féliciter. Parce que dire un discours politique doit être cohérent dans son action et dans ses ensuite décisions de politique économique. C'est ce qui fait la crédibilité, c'est ce qui fait la confiance. Et ça joue beaucoup sur l'efficacité des mesures, des choix de politique économique. Donc, malgré ce que j'ai commencé à dire, à savoir que les durées d'indemnisation ont un effet sur la rapidité de reprise d'emploi, sur le fait que la France reste l'un des pays, sinon le pays dans lequel les durées d'indemnisation sont les plus longues, il est bon, quand même, de jouer sur la cohérence du discours. Et donc, en période d'augmentation du chômage, de garder cette cohérence sans baisser, c'est-à-dire ne pas baisser la durée d'indemnisation, ou en tout cas renvoyer cette baisse à des périodes meilleures en termes de taux de chômage.
6%, de toute façon, on n'y est pas.
On n'y sera sans doute pas.
C'est pas la direction qu'on est en train de
prendre.
Dans
ce quinquennat. On n'y sera sans doute pas dans ce quinquennat.
Une réflexion, Xavier, ou alors Léonidas, sur ces éléments.
Moi, je trouve qu'il est cohérent que l'on ait. C'est une logique que tout le monde peut comprendre. Enfin, c'est aussi à propos de la cohérence des actions politiques. Chacun peut comprendre qu'on soit. Particulièrement en accompagnement lorsque le marché du travail est très difficile et qu'on le soit moins et qu'on incite à trouver un emploi quand il y a des offres. Maintenant, je trouve aussi que lorsqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, c'est aussi un paramètre, et c'est un paramètre que l'on constate aujourd'hui. Ça pourrait aussi être un critère.
C'est le critère mis en avant par Stéphane Carcillo, qui est assez spécialisé du sujet, qui considère qu'on est encore dans un marché en tension, ce qui justifierait, malgré une petite hausse du taux de chômage, que l'on agisse sur le paramètre de la durée d'indemnisation.
Et je pense que c'est effectivement un paramètre qui pourrait être examiné
à nouveau.
C'est le plus
efficace. C'est clairement celui-là qui a prouvé son efficacité. Xavier Etabo, là-dessus, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non,
là, il n'y a pas vraiment de nouvelles. C'est l'été prochain.
Il n'y a pas vraiment de nouvelles. La contracyclicité, c'est évidemment quelque chose d'important pour l'assurance chômage. Enfin, c'est même un peu le cœur de fonctionnement de cette assurance sociale. Après, je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu les détails. Par exemple, chercher à réduire l'indemnisation chômage, avoir un délai de carence pour les cadres qui font une rupture volontaire de contrat. Oui. Ça fait partie des choses, évidemment, qu'on peut vouloir souhaiter, parce que l'assurance chômage n'est pas nécessairement là pour permettre des périodes de transition un peu longues entre deux emplois pour des gens qui n'ont pas de difficulté à trouver des emplois. Ça, c'est une chose assez claire. Et donc, voilà, dire que l'assurance chômage, ça n'est pas ça, ça me paraît quelque chose d'assez important.
Oui, il faut le rappeler.
Non, mais clairement.
Voilà, après, quand on réduit la durée d'indemnisation, il faut voir aussi que ça va avoir, alors on peut dire à la marge, mais c'est une marge qui peut être assez grande, des effets sur des gens qui ont vraiment des difficultés pour retrouver des emplois, parce qu'ils sont loin de l'emploi. Donc, ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement actives qui sont associées à ces mesures de réduction d'assurance chômage et qui d'ailleurs peuvent aussi lever ou en tout cas fournir des dispositifs complémentaires pour pouvoir permettre à des gens qui sont loin de l'emploi, qui sont en situation difficile, qui sont dans des reconversions profondes, hein, parce que tout le monde n'est pas entre deux emplois avec un capital humain important. On aimerait avoir aussi des propositions là-dessus. Bon, ça reste pour le moment reporté à une situation du chômage qui s'améliore. Donc, on peut dire que pour le moment, le sujet n'est pas urgent, mais voilà, je pense que c'est quand même des choses à rappeler. La justice dans l'assurance chômage, elle passe par ça, c'est-à-dire ceux qui effectivement peuvent retrouver un emploi rapidement. Il n'y a pas de raison de les indemniser très longtemps. Ceux qui sont très loin de l'emploi, il ne faut pas que les indemniser.
C'est probablement l'un des parents pauvres de notre dispositif de retour à l'emploi, ce qui nous différencie d'ailleurs avec des pays qui dépensent beaucoup d'argent dans ce domaine, mais avec des résultats probants. Vous avez longtemps dirigé le groupe d'experts sur le SMIC, Gilbert Sept. Le patron de Michelin, Florent Ménégaud, alors là, il est dans le JDD, il s'exprime avec un discours très social. C'est du Michelin, la main sur le cœur, début du XXe siècle. Mais quand il avait déclaré que le SMIC n'était pas décent, alors il fait ce qu'il veut dans son entreprise, il a la capacité de payer deux SMIC, un salarié parisien, très bien. Mais ajouter que le SMIC n'est pas décent, où là, on implique l'intégralité de ce dispositif de salaire minimum, ça allait un peu plus loin qu'une simple décision de gouvernance interne. Comment vous avez vécu cette déclaration du patron de Michelin?
Oh, je l'ai vécu ni bien ni mal.
Non, mais voilà, je pense que vous avez provoqué. Pas cessé de manger et de dormir.
Ça a provoqué un certain étonnement. Pourquoi un certain étonnement? Parce que, d'une part, quand on compare le niveau de notre salaire minimum à celui qui existe dans d'autres pays, en parité de pouvoir d'achat,
mais ils le reconnaissaient,
en parité de pouvoir d'achat, on est élevé. Oui. On est élevé, sinon l'un des deux ou trois plus élevés parmi tous les pays de l'OCDE qui disposent d'un salaire minimum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour l'entreprise Michelin, j'aimerais quand même savoir combien, quelle est la proportion de personnes qui peuvent être au SMIC dans les sous-traitants ou dans les activités externalisées par le groupe Michelin. On peut penser au nettoyage, on peut penser à la restauration, on peut penser
à ce genre
d'activité. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est évidemment que ce qui est dur dans le fait d'être au SMIC, c'est pas simplement d'être au SMIC. C'est le fait parfois de le rester durablement.
Ça, c'est l'autre sujet.
Et c'est le point sur lequel les rapports du groupe d'experts sur le SMIC ont mis énormément d'accent sur les 7-8 ans pendant lesquels j'ai dirigé ce groupe, pour dire attention, il faut accompagner des gens pour sortir du SMIC. Et ça, c'est d'une complexité inouïe.
Vous avez vu le pré-rapport Bozio-Vasmer sur le sujet, qui vous dit qu'on n'a pas la solution.
Alors, il y a des phénomènes de trappe qu'on a évoqués d'ailleurs sur ce plateau pas mal de fois. Hein. Savoir que pour un salarié à temps plein au SMIC, l'augmentation de 100 euros par mois de son revenu disponible correspond à une augmentation de coût pour l'entreprise de près de 500 euros. Donc il y a un phénomène qui est lié à la superposition des dégressivités, des exonérations de charges sociales, des soutiens aux bas revenus, primes d'activité, de logement, etc. Et puis la progressivité de l'impôt sur le revenu qui aboutit à cette distance énorme. Donc ça, il faut le revoir de fond en comble.
Personne à la solution pour le
Mais personne n'a la solution.
J'ai raconté la semaine dernière que les Échos ont fait un graphique relatant tout l'historique des baisses de cotises depuis 1900. Le graphique, vous le regardez, vous y pigez rien.
On a publié ça.
La complexité du graphique est révélatrice de la complexité de la solution.
On a publié ça dans le groupe d'experts sur le SMIC. Simplement, il ne faut pas se leurrer. Revoir à coût nul, c'est-à-dire à coût inchangé pour les finances publiques, revoir à coût nul notre système d'exonération de charges sociales pour adoucir la dégressivité. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants parmi les entreprises. Et les perdants peuvent être les entreprises industrielles, les gagnants les entreprises de services.
Oui,
pareil pour la dégressivité des soutiens aux revenus, il y aura des gagnants et des perdants parmi les ménages, et parmi des ménages qui ne sont pas des nantis. Donc, c'est quelque chose de complexe.
C'est exactement ce que dit ce pré-rapport. Il faut accepter de faire des perdants. J'ai l'impression, comme je vous le disais avant l'émission, j'ai l'impression qu'ils ont publié ce pré-rapport pour alerter sur le fait que le rapport final de juin, ça n'allait pas être la martingale gagnante avec la solution de l'ismicardisation où j'appuie sur le bouton et c'est fait.
Surtout à coup nul.
Oui, Léonidas. Non, mais après, je voudrais revenir sur les propos du patron Michelin.
Cela dit, c'est le cœur du sujet, parce que l'on a fabriqué cette superposition d'accompagnement qui fait que les gens sont bloqués au SMIC.
Et le phénomène de l'indexation du seul SMIC sur l'inflation.
Il a
augmenté 10 ou 12
fois. Très objectivement, on a fabriqué un système pour les temps de crise. Et donc on a fabriqué un système qui est un accompagnement de la difficulté de pouvoir d'achat des gens qui travaillent et des gens pour qui le travail ne rémunère pas, ce qui est nous pose un problème à nous et qui renvoie d'ailleurs aux propos du président Michelin. Il faut que le travail rémunère. Enfin, c'est le levier de l'émancipation, c'est la promesse de notre modèle, c'est que vous travaillez, vous vivez mieux ou bien, et vous ne travaillez pas, et cette tension-là vous amène à retourner vers l'emploi.
D'accord, il faut que le travail paie, le salaire net augmente, c'est l'antienne de Gabriel Attal, mais personne n'a le début d'une solution.
On a construit tellement de mécanismes pour accompagner les bas salaires qu'ils bloquent le tout. Maintenant, le débloquer, c'est véritablement l'enjeu d'une réforme politique majeure, et c'est vrai que on en voit les prémices, il va falloir que l'on s'attaque à ce sujet. C'est le cœur du sujet. Le modèle de la politique économique qui est menée, qui est de pousser le pays vers le plein emploi, qui est un modèle vertueux, je pense que est-ce qu'on y arrive ou est-ce qu'on n'y arrive pas, c'est un autre sujet, mais en soi, c'est une ambition qui est à la fois économique et sociale.
Vaut mieux celle-là que l'inverse.
On est bien d'accord. Ça a aussi pour objectif d'aller résorber nos déficits, mais ça passe nécessairement par la remise à plat. Alors, je ne sais pas s'il faut le confier à une intelligence artificielle compte tenu de la complexité des paramètres
jouer. Elle aurait du mal.
Elle aurait du mal. Tous les cas, c'est peut-être un endroit où elle pourrait faire la démonstration de ses performances. Mais effectivement, passer à côté de cette réforme, c'est passer à côté de
l'essentiel. Le problème, Léonidas, c'est qu'on est bien conscient de l'histoire. Ça a été effectivement, Gilbert le rappelle, ça a été parfaitement analysé. Le diagnostic est là, le remède, je ne sais pas. Xavier Thimbault, cette histoire vous fait... On en a parlé mille fois et je pense qu'on va continuer en fait.
Voilà, parce qu'on sait pas. Mais bon, on sait pas. Juste deux, trois choses, juste pour compléter déjà ce qui a été dit. Donc effectivement, on a un système avec une taxation marginale implicite qui est très forte. C'est aussi lié au fait qu'en fait, il y a quand même des exonérations de charges très importantes au niveau du SMIC. Et si on a un des SMIC en parité de pouvoir d'achat, un des plus importants en Europe, on a aussi un des coûts du travail au SMIC les plus bas en Europe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on visait le plein emploi.
Absolument.
Et comment on visait le plein emploi ? On le visait en faisant en sorte que les emplois peu qualifiés soient peu coûteux, façon à pouvoir produire en particulier des services peu chers. Et en fait, la méthode par laquelle on est arrivé au plein emploi, c'est qu'on a subventionné les services de façon à ce qu'ils soient peu chers, donc que les gens qui ont un pouvoir d'achat intermédiaire et supérieur puissent acheter des services avec des rémunérations dans le secteur des services qui sont suffisantes, en tout cas pas indécentes, et de fait, en fait, on fait une forme de subvention de l'industrie vers les services par ce mécanisme-là. Mais en fait, quand on dit qu'on subventionne les services, c'est qu'on subventionne les consommateurs des services aujourd'hui. Donc il ne faut pas oublier ça non plus dans les perdants, c'est en fait aussi un des aspects dans lequel les choses vont être perdues. Enfin, je veux dire, les gens qui ont des nounous aujourd'hui, bah, les rémunèrent un tarif qui est relativement bas par rapport à tout ce qui se fait par ailleurs dans le monde. Donc, c'est une question. Ça, c'est le premier point. Après, moi, je trouve le débat sur le salaire décent très intéressant.
Ah.
Même si, bon, le paternalisme de Michelin, on voit que c'est quelque chose qui a la vie dure. Mais justement.
C'est une marque de fabrique.
C'est une image de marque. Mais justement, je pense que ça vaut la peine quand même de réfléchir un peu à ce paternalisme. Parce que je pense que dans la réflexion de Michelin, il y a l'idée que la rémunération, la plus basse, elle est faite pour un foyer monoactif et pas pour un foyer biactif. Et ça, c'est aussi une autre question très importante dans notre système de conception des salaires. La pauvreté, elle n'est pas simplement liée au fait d'être au SMIC, elle est aussi et surtout liée au fait d'être, un, au SMIC dans un foyer où il y a un seul des adultes qui travaillent, et encore plus dans un foyer monoparental où un des actifs travaille à temps partiel et a du mal à payer la garde d'enfants.
C'est la théorie de Gilbert dans son dernier livre.
Hein. C'est pas une théorie, c'est un fait. Tout mon respect pour Gilbert, mais ça c'est quelque chose qui est. Mais c'est quand même important à mettre sur la table, parce que dans notre perception de ce qui est un salaire décent, si on traite pas la question de la biactivité, on va vite dire des grosses bêtises. Et effectivement, une famille de deux adultes et de deux enfants avec un SMIC. Oui, ça c'est sûr, c'est une rémunération qui n'est pas décente. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du seuil de pauvreté.
Mais quelqu'un qui vit seul avec son SMIC.
Mais un célibataire et surtout un couple biactif.
Ils prennent effectivement.
Où l'homme et la femme travaillent.
Oui.
Et l'homme et la femme travaillent à temps plein. Eh bien, les conditions de rémunération ne sont pas les mêmes. Alors après, il y a la question de la garde d'enfants, il y a la question de comment on subventionne la garde d'enfants. Est-ce qu'on le fait par des subventions au bas salaire pour que ça profite à tout le monde, ou est-ce qu'on le fait par des subventions qui sont ciblées sur les bas revenus ? Ça aussi, c'est une des questions importantes. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si le paternalisme nous dérange aujourd'hui, c'est parce que derrière le paternalisme, il y a ce modèle du foyer monoactif et pas biactif.
C'était l'objectif de la prime d'activité, de corriger une partie de ce qu'on vient de décrire. Allez-y, Gilles Berset.
Oui, prime d'activité, juste un point, puis je reviendrai là-dessus. Prime d'activité, faut bien voir que personne ne vit avec simplement le SMIC. Personne. Pour dire les choses, par exemple, pour donner un chiffre, un salarié célibataire à temps plein au SMIC, touche environ 240 euros par mois de prime d'activité. Vous voyez, c'est un complément.
1400 euros net de SMIC pour un temps plein.
Et
effectivement, quelques 240 ou 250 euros.
On ne peut pas parler du SMIC de façon isolée du système de soutien aux bas revenus. Mais comme l'a bien rappelé Xavier, ce que je souligne dans mon bouquin, c'est si on veut parler de la pauvreté au travail, des travailleurs pauvres, il faut parler du temps partiel. Pour donner un chiffre, pour les travailleurs à temps plein, le taux de pauvreté est de 5%. Pour les travailleurs à temps partiel et dans des familles monoparentales, le taux de pauvreté est de 31%. Six fois plus. Les deux principaux facteurs de pauvreté des travailleurs sont le faible nombre d'heures de travail travailler, donc c'est la quotité de travail, et puis d'autre part les charges familiales. Vous voyez, c'est ça les deux principaux facteurs de pauvreté. Oui. Le salaire horaire, et le SMIC est un salaire horaire,
un salaire horaire.
Bien derrière, mais très loin derrière, comme facteur de pauvreté des travailleurs. Mais... Donc, si on veut s'attaquer à la pauvreté des travailleurs, il faut surtout s'attaquer
au temps partiel.
Au temps partiel subi. Contraint. Oui, c'est-à-dire les gens qui voudraient travailler davantage. Comment on peut les amener
très bien,
travailler davantage?
Je me demande comment on fait.
Et en Allemagne, il y a eu des choses qui ont été faites. Par exemple, au début de l'année 2019, c'est une loi qui a été votée en 2018 en Allemagne. Début de l'année 2019, vous voyez, quand un salarié est à temps partiel, voudrait un temps plein et que dans son entreprise des temps pleins sont créés, en France comme en Allemagne, il est possible pour le salarié de dire « je voudrais bénéficier de ce temps plein ». En France comme en Allemagne, auparavant, le chef d'entreprise pouvait dire « non, je refuse votre passage à temps plein ». Maintenant en Allemagne, enfin maintenant depuis 2019, le chef d'entreprise doit motiver ce refus.
D'accord.
Motiver ce refus. Ce qui donne une base concrète aux salariés pour contester ce motif.
Non, mais ça,
vous voyez, et l'Allemagne est justement en train d'évaluer ce dispositif avec une distance de 5 ans pour savoir si ça a été efficace ou pas, qu'est-ce que ça a produit.
Il
faut s'inspirer peut-être de ça.
Réaction, on marque une pause après. Et puis...
Néanmoins, dans les emplois à temps partiel, il y en a énormément dans les services à la personne. Et ce que constatent les entreprises des services à la personne, c'est que la limite de passage au temps partiel au-delà d'un tiers de temps à peu près est une limite que les intervenants eux-mêmes ne veulent pas franchir parce qu'ils perdent énormément de dispositifs d'accompagnement pour les bas revenus s'ils dépassent ce tiers de temps. Et donc on a une espèce de limite pour les temps partiels et qui gêne d'ailleurs les entreprises de services à la personne. Elles préféreraient largement avoir des intervenants moins nombreux qui travaillent à plein temps, mais ils ne veulent pas, c'est les intervenants eux-mêmes qui ne veulent pas, parce qu'il y a passé à certains niveaux de temps partiel,
il y a des effets cliquets qui peuvent éteindre des...
Exactement.
Ça, c'est particulièrement vrai pour les temps partiels du second travailleur dans le foyer. C'est-à-dire dans un foyer où il y a un travailleur à temps complet et un travailleur à temps partiel, il y a une trappe à temps partiel qui est extrêmement forte.
Oui.
Du fait de ce que vous dites. Pour un travailleur célibataire ou dans une famille monoparentale, la question, c'est généralement pas les aides qu'on perd, c'est la question des gardes d'enfants.
Mais
aussi absolument critique dans ce schéma-là. Donc, et on peut pas distinguer, on peut pas ôter la question de la garde d'enfants de la question du temps partiel subi, choisi, parce que
des femmes qui choisissent le temps partiel,
de tout ce que l'on dit qu'elles le choisissent, mais en fait elles le choisissent parce qu'elles n'ont pas de mode de garde d'enfants.
Tout à fait, on est d'accord.
Voilà, donc faire attention aussi à la notion de choisir.
Sur ce sujet des services à la personne, quand Guillaume Richard nous raconte comment ça se passe dans son entreprise, alors il a que des gens déclarés, mais effectivement ce phénomène de refus de vivre une augmentation ou de vivre une augmentation du temps de travail est assez courant, quelquefois pour des raisons qui peuvent être les raisons décrites par
la totalité des entreprises,
mais quelquefois aussi pour des raisons de rationalité, parce qu'effectivement, eh bien, gagner un peu plus ou travailler un peu plus va éteindre tel ou tel dispositif et que on fait une sorte
d'arbitrage. On a calculé que ce qu'on allait gagner marginalement en plus par rapport à ce qu'on perd est tellement petit que on renonce
vous trouverez tout ça dans les rapports du groupe d'experts sur le SMIC.
Pour terminer, là, sur le chiffre 100 euros net au SMIC égal 483 euros coût pour l'employeur. En plus, celui qui touche 100 euros net, il perd un peu de prime d'activité, il paye un peu plus d'hier. Donc, pour qu'il ait vraiment 100 euros net, il faut aller au-delà. Il faut au moins 160.
Mais les solutions ne sont pas simples. Je voudrais, par exemple, revenir sur
une solution dans un instant. Et puis, quand même, je voudrais vous demander de réagir à la phrase de Monsieur Ménégo chez Michelin. On ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens. Alors, est-ce qu'il est totalement sincère? Je ne sais pas. Bon. Après les enjeux économiques de la visite de Xi Jinping et puis les finances publiques, baisser les dépenses ou augmenter les taxes, à tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gilles Bercette, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a publié « Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions de Buck. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français de conjoncture, sur la conjoncture ou de conjoncture économique ?
Des conjonctures économiques.
Wow. Vous vouliez dire un truc, je vous ai coupé la parole.
Oui, juste un point. Pour illustrer que les solutions à trouver sont complexes. On peut prendre l'exemple, ou mauvais exemple, on sait qu'il est mauvais avec recul.
Moi, j'aime bien quand on essaie de trouver des solutions. Même si on
Les partenaires sociaux, dans un ANI, un accord national interprofessionnel en 2013, on dit, pour éviter l'extrême pauvreté de travailleurs avec des temps partiels très courts, on va interdire les temps partiels inférieurs à 24 heures par semaine. A priori, c'est pas mal intentionné. Alors, ça a été transposé dans le droit positif, en 2014, avec d'ailleurs quelques dérogations. Et puis, avec un certain recul, il y a des chercheurs qui sont allés voir ce que ça produisait. Pauline Carrie, entre autres,
au Crest. Et vous pensez au bonus-malus qui a été mis en place.
Oui, mais là, c'est pas le bonus-malus. Là c'était l'interdiction des temps partiels de moins de 24 heures. Et donc, elle a regardé ce que ça avait fait dans les entreprises. Et elle s'est rendue compte, elle a montré que dans pas mal d'entreprises, ça avait conduit à détruire des emplois de moins de 24 heures, principalement occupés par des femmes, et ça avait abouti à la création d'emplois à temps plein, principalement occupés par des hommes. Et donc, plutôt que réduire le gender gap d'une certaine façon, ça avait accentué le gap entre hommes et femmes. Vous voyez, c'est une mesure très bien intentionnée au départ, a eu des effets pervers.
Ça me rappelle la contribution de Lalande.
Ça veut dire que dans le domaine de la politique économique, il faut se méfier, il faut évaluer, et il faut toujours se dire que parfois des mesures qui semblent logiques, qui semblent bonnes, adaptées aux questions posées, elles sont
contre-productives.
Tous
ces sujets que l'intuition semble plébisciter et qui ne résistent pas à l'observation.
Comme une augmentation très forte du SMIC peut aboutir à augmenter la pauvreté si ça détruit les emplois.
Xavier, vous voulez réagir à ce que
disait. C'est intéressant parce qu'on peut, on peut réagir à cette expérimentation ou à cette analyse en disant en fait il valait mieux garder les temps partiels de moins de 24 heures parce que en fait ça favorise l'emploi des femmes. Mais on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi quand on propose des temps pleins à la place des temps partiels, les femmes ne les prennent pas. Et peut-être que cette mesure qui a été prise de supprimer, mais alors du coup, vous voyez la perversité, elle n'est pas dans le fait d'avoir interdit les 24 heures, la perversité, elle est dans le fait que les femmes, même quand elles veulent prendre plus qu'un temps partiel, elles ne peuvent pas, parce que au sein de l'organisation du couple, c'est elles qui s'occupent des enfants et qu'il n'y a pas de mode de garde d'enfants pour leur permettre de travailler à temps plein. C'est ça la perversité, et c'est ça qui conduit à la pauvreté. C'est pas, et le fait d'avoir interdit les temps partiels de 24 heures, ça devrait plutôt nous porter notre attention sur cette question, plutôt que de nous dire, conservons le système tel qu'il est, parce qu'en fait, il est négatif, il serait négatif de supprimer les temps partiels de 24 heures pour l'emploi des femmes.
Mais j'aimerais.
Il y a un auditeur qui me dit qu'il a fait perdre une prime de rentrée scolaire à une collaboratrice en l'augmentant. Justement.
En l'augmentant, mais il y a des collaborateurs qui refusent d'être augmentés. Mais
allez-y.
Sur les effets pervers.
Mais pas trop long, parce que je voudrais qu'on avance quand même.
Mais je voudrais juste répondre au patron de Michelin sur le SMIC.
Le patron de Michelin, j'aimerais que vous répondiez aussi sur le côté ultra-paternaliste. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos des gens.
Le patron de Michelin.
Et je ne sais pas s'il nous écoute, mais les postures sont. Enfin, le capital est trop payé par rapport au travail, il le dit très clairement. Il faudrait plafonner les salaires les plus élevés. Enfin.
Non, que l'on interroge. Il n'a pas l'air de vouloir qu'on intervienne en légiférant.
Non.
Notamment d'ailleurs lorsqu'on l'interroge sur les salaires chez Excellentis, il dit il faut comme ils veulent dans leur entreprise. Nous on a fait autrement. Et après tout, chacun a son modèle. Le modèle paternaliste de Michelin, il assume et il a sa cohérence. En revanche, sur le SMIC, on était en train d'évoquer les effets pervers de mesures qui sont bien intentionnées. Mais le patron de Michelin lui-même dit nous avons une véritable difficulté avec la compétitivité de nos produits qu'on n'arrive pas à vendre. S'il veut pousser à l'augmentation du SMIC pour qu'ensuite il vienne dire on a un problème de compétitivité, on n'arrive pas à vendre, je ne suis pas totalement certain que l'augmentation du SMIC ne fasse pas perdre plus d'emplois qu'on arrive à en créer avec le SMIC tel qu'il est. Donc les effets pervers, comme ceux qu'on vient d'évoquer avec des mesures qui sont très très bien intentionnées et qui vont exactement à l'inverse de ce que l'on voudrait, ça me semble dangereux à appréhender. Qu'ensuite on ait un débat, pourquoi pas. Mais je crains les effets économiques d'une volonté d'augmenter le SMIC de façon généralisée. Je ne pense pas que ça soit la voie vers laquelle il faudrait aller, surtout quand on va commencer à évoquer nos relations avec la Chine.
mais il considère que le capitalisme est allé trop loin. Formule du capitalisme. Vous aviez fait une chronique en disant peut-être que le libéralisme était allé trop loin.
Non, je disais que le...
Et lui, il considère que le capitalisme est allé trop loin. Même si on a coutume de dire qu'en France, le partage de la valeur ajoutée entre capital et travail ne s'est pas déformé depuis de nombreuses années. Mais en France, mais c'est un groupe mondial après Michel.
Oui, mais cela dit, la philosophie qui aspire son discours sur cet équilibre, effectivement, est une philosophie que l'on retrouve assez bien en France, et probablement plus en France que dans n'importe quel autre pays.
Bon, on ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens.
Écoutez, je pense qu'il n'y a personne autour de cette table qui voudrait venir en contradiction avec cette phrase.
Xavier Dabat, vous voulez dire un mot là-dessus ?
Moi, ça m'évoque quand même un petit commentaire qui me semble important, c'est... Enfin, moi, ce que je lis dans le discours du patron de Michelin, c'est l'idée que peut-être que dans un monde de globalisation où la compétitivité devient le levier unique, on conduit à une forme de dépréciation de la valeur du travail, et que peut-être qu'il essaye de vendre qu'une petite forme de protectionnisme européen permettrait d'avoir une rémunération un peu plus décente pour les gens. Et,
il lit pas ça à la rémunération, il lit ça au fait d'avoir un outil industriel sur notre continent.
Ça, c'est pas du paternalisme, ça c'est un appel au protectionnisme, avec peut-être des motifs pertinents pour le faire. Probablement à l'échelle européenne et pas nationale, mais voilà. Enfin.
Pardonnez-moi, d'ailleurs, de ce point de vue-là, on a souvent...
Il n'est pas le seul.
Je ne suis pas totalement certain, d'ailleurs, qu'il s'agisse de protectionnisme. Je crois qu'il s'agit d'avoir les mêmes règles pour l'ensemble des acteurs, et ces mêmes règles, on les impose...
On ne les aura pas.
Non, mais on ne les aura pas.
On ne les aura pas. Les Chinois ne vont pas se mettre à produire vert comme nous, avec les normes sociales que nous avons, et ils n'ont pas le même bagage social que celui que nous avons aujourd'hui.
Donc, si le fait de vouloir seul faire respecter, on appelle ça du protectionnisme, je veux bien, je ne suis pas totalement certain que le terme soit adéquat. Enfin, mais en tous les cas, on a commencé à le faire pour les taxes carbone, sur les questions environnementales. Dans la RSE, il y a aussi le volet social. Okay. Et vouloir, effectivement, imposer un certain nombre de règles aux produits qui sont importés pour qu'ils puissent arriver à contribuer au financement de notre modèle social, il me semble qu'il y a là une certaine cohérence. D'ailleurs, l'idée d'avoir une TVA sociale, c'est bien cette idée-là, que les produits importés puissent également contribuer au financement de notre modèle social.
Moi, j'entends tout à fait ce que dit Léonidas. La globalisation, l'Organisation mondiale du commerce se sont bâtis sur l'idée que, en ce qui concerne les normes sociales, en dehors de quelques tabous infranchissables, comme le travail des enfants, l'esclavage, le travail des prisonniers, en fait, les normes sociales étaient propres à chaque pays. Et était en fait pouvait être un avantage compétitif, c'est-à-dire que avoir un niveau de vie plus bas, un SMIC plus bas, ne pouvait pas être considéré comme du dumping et était quelque chose qui était de l'ordre de l'organisation sociale du pays. Et en particulier, ça permettait d'intégrer les pays en développement qui fatalement n'avaient pas du tout les mêmes sociétés.
C'est parce qu'on reproche aux Chinois
absolument
d'avoir un coût du travail beaucoup plus faible que le nôtre. On leur reproche l'ultra subvention de certains secteurs.
Oui,
et
mais
puis l'empreinte carbone des produits.
Ce qu'a dit Léonidas, c'est quand même l'idée qu'il fallait prendre en compte notre système social et les normes sociales, et que ça allait un peu plus loin que cette fois-ci le travail des enfants, l'esclavage, le travail des prisonniers, et que c'était quelque chose.
Et ça rejoint le propos du.
Et c'est un propos qui a plutôt tendance à monter. Mais vous voyez que c'est une extension de ce qu'on appelle la juste compétitivité à un domaine qui, auparavant, avait été explicitement exclu. Hein. Oui. Donc c'est une rupture.
Xi Jinping est à Paris, donc c'est l'élément d'actualité. Évidemment, il y a toutes ces tensions commerciales, les enquêtes dans tous les sens anti-dumping, les Européens qui observent comment sont fabriquées les voitures électriques, maintenant les Chinois qui vont vouloir regarder de près ce qu'il y a dans les bouteilles de cognac. Tout ça est en train de prendre une tournure qui tourne un peu au vinaigre. La solution, moi j'ai dit ce matin qu'à mon avis, il n'y en aura pas de solution. Et c'est effectivement la question de savoir si, comme tout le monde, les Européens disent qu'on a besoin d'un peu de protection.
Mais vous avez évoqué...
Faites pas trop long,
Deux points d'abord. D'abord, le premier point que vous avez rappelé, le partage salaire-profit en France ne s'est pas déformé en faveur du capital de façon structurelle. Il y a des fluctuations annuelles, bien sûr, fluctuations en période de crise par ailleurs, mais il est à peu près constant depuis la fin des années 80. Ce qui fait d'ailleurs un particularisme français, hein, c'est pas déformé en faveur du capital. Par rapport à la Chine... Ce qui est reproché à la Chine, effectivement, c'est pas du dumping social, c'est des subventions. Bon, le rapport de force entre un pays comme la France et la Chine, mais faudrait poser évidemment immédiatement les choses d'une façon plus européenne, c'est ce que fait d'ailleurs le président avec ses rencontres avec Ursula von der Leyen. Mais le rapport de force avec la Chine est plutôt du côté de la France. Le déséquilibre commercial, il est de 50 milliards en faveur de la Chine. Dans nos rapports commerciaux avec entre France et Chine. Donc, s'il y a des normes, s'il y a des limites qui sont faites, s'il y a une taxation dans des entreprises pour des produits qui sont subventionnés en Chine avant d'être exportés, je veux dire, qui est le grand perdant d'une guerre commerciale entre l'Europe dont la France et puis la Chine, c'est évidemment la Chine. Donc il faut être bien conscient du rapport de force.
Et un peu
le rapport de force est européen et il est français dans ce rapport bilatéral. Donc il faut mettre les choses sur la. Il faut espérer qu'il y aura un tout petit peu de détermination de ce point de vue-là de notre président dans ses rencontres avec Xi Jinping. Détermination aussi. Dans le domaine des droits de l'homme, dans des domaines autres que des domaines purement économiques.
En tout cas, je trouvais que le message adressé par le président chinois dans le Figaro ce matin était un message...
Je ne l'ai pas lu encore, il y a un papier fleuve, les trois pistes, dit-il.
Mais c'est un très beau papier, c'est un très beau message, c'est un très beau message d'ailleurs qui s'inscrit dans la durée et dans la continuité entre deux États très indépendants, entre la France et la Chine, avec des liens historiques qu'il rappelle et qu'il veut prolonger avec un discours de paix. Enfin, alors après, il y a tout ce qui appartient à la langue de bois diplomatique, mais en tous les cas, voilà, non mais très bien. Mais
il va pas faire une tribune belliqueuse dans le Figaro le jour de son arrivée à Paris.
Certes, voilà. Enfin, on voit quand même le président russe faire des tribunes et des propos belliqueux à longueur de temps. Bon. Le discours mais belliqueux voyez, fait partie. Bon, ce n'est pas tous les cas le discours de la Chine. Et ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que il y a, vous évoquiez ce matin le débat avec Jean-Marc Daniel.
Le débat, lui c'est le consommateur, moi c'est le producteur. On se bat depuis des mois autour de ça.
Maintenant, quel est dans un rapport de force diplomatique et commercial entre deux puissances économiques une autre voie qu'une voie de schizophrénie? Il n'y en a pas, bien entendu que ça va être de la schizophrénie, bien entendu qu'il y a une part de capitaux que l'on voudrait attirer en France pour avoir des investissements, et bien entendu que l'on veut continuer à commercer de manière équitable, sans avoir des produits qui rentrent sur notre marché avec des subventions qui font que notre modèle est cassé. Enfin, tout ça, c'est de l'intérêt bien compris et juste. Et ça fait partie des relations économiques et commerciales. Pour le moment, ça me semble appartenir à l'ordre naturel des choses.
Je vais lire après la tribune de Xi Jinping, mais quand je vois la manière dont la Chine s'est comportée depuis 2001, sa date d'entrée dans l'OMC, on arrive la main sur le cœur et
il y a quelque chose,
on avance après.
Oui, juste pour rebondir à ce que disait Xavier Tabot, c'est aussi un pays qui a sorti des centaines de millions de ses habitants de la pauvreté. Le modèle est réel, le résultat est tangible. Il s'est fait en quelques décennies. C'est un miracle économique. C'est devenu le moteur de la croissance mondiale. Il y a quand même quelque chose que nous pouvons potentiellement apprendre de ce que nous avons pu voir de nos yeux depuis 30 ans.
Finances publiques, baisser les dépenses ou augmenter les taxes pour l'interrogation, signé Gilbert Sept dans Telos. Telos, c'est toujours des articles fleuves, visiblement.
c'est un peu plus long que des chroniques dans la presse.
On a 12 minutes, il faut que la parole tourne. Oui. Quel est le message que vous voulez... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, les deux, mon général.
Le message... Il y a une doxa qui est assez partagée, consistant à penser qu'il vaut mieux faire de la consolidation par hausse des impôts que baisser des dépenses. Or, il y a une littérature économique quand même qui commence à être abondante, qui a été portée par des économistes renommés. Je pense à Alizina qui a disparu il y a maintenant 3 ans, qui nous montre qu'au contraire, l'impôt, la hausse de l'impôt étant toujours d'une façon ou d'une autre distorsive, la baisse des dépenses est moins pénalisante pour la croissance que l'augmentation des impôts.
Baisser les dépenses nuit moins à la croissance.
Et ça, c'est basé sur l'étude de 200 épisodes de consolidation fiscale dans des pays très avancés. Il y a même des cas assez nombreux dans lesquels la baisse des dépenses peut s'accompagner d'une augmentation, d'une accélération de la croissance, parce qu'elle est rassurante, en quelque sorte, pour les ménages.
La visibilité fait que l'épargne va commencer à baisser.
Visibilité cohérence et confiance.
Alors, quand ça va bien en France, on épargne parce qu'on sait jamais. Quand ça va mal, on épargne parce que ça va pas bien.
De ce point de vue-là, on peut se dire que le discours des pouvoirs publics va dans le sens des messages de cette littérature récente des dernières décennies.
Le discours,
c'est
de l'urgence absolue.
Le discours de baisse des dépenses,
qui va chercher
le discours de baisse des dépenses et pas de hausse de l'impôt.
Oui, le discours.
Néanmoins, au-delà de ce discours, on voit que les méthodes employées sont peut-être très pénalisantes pour la croissance. Méthodes employées qui vont du rabotage, qui ne s'attaquent pas à certaines niches qui sont très porteuses en termes de rendement. Voilà, c'est un peu...
On a deux niches qui coûtent très cher, qui s'appellent crédit d'impôt recherche et service à la personne.
Oui, mais je pense par exemple à d'autres niches. La TVA réduite pour la restauration, dont on a montré qu'elle avait une efficacité économique assez faible.
Le problème, c'est que
les 10% de réduction...
Si vous la remontez la TVA dans la restauration, là vous aurez un effet inflationniste.
Les 10%...
Même si vous n'avez pas eu l'effet...
C'est pas évident.
Ça marche pas dans un sens, mais ça marche dans l'autre.
Les 10% de réduction, les 10% de réduction fiscale pour les retraités, pour frais professionnels, vous voyez, ces deux niches réunies, ça correspond à peu près à 8 milliards d'euros par an. C'est quand même pas négligeable.
La TVA,
8 milliards d'euros.
10% 8 milliards d'euros. D'abattement, voyez, pour les retraités.
C'est ces deux niches réunies. On peut penser, alors c'est évidemment une augmentation des prélèvements, le fait de supprimer ces deux niches, mais ces deux niches sont quelque chose d'aberrant. Et c'est des rendements assez élevés pour sans doute un effet croissance assez faible.
J'ai un auditeur qui me dit que si on veut des smicardisés, on divise le SMIC par deux et le tour est joué. Ok.
Non, mais c'est un point intéressant, parce que c'est aussi parce qu'on l'a beaucoup augmenté.
Bah oui.
Il y a beaucoup plus de smicards.
Il y a du rattrapage, oui.
Ah, il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il y a beaucoup de smicards à un SMIC très élevé. Mais bon.
Oui.
Vous faire un petit commentaire
Mais bien sûr. Baisser les dépenses nuit plus. Baisser les dépenses nuit moins que monter les impôts sur l'activité, nous dit Gilbert Sept.
Je commence avec un peu de polémique.
Alesina
a effectivement écrit des papiers dans lesquels il a expliqué que quand on baissait les dépenses et quand on réduisait les dépenses et que même on réduisait les impôts, on pouvait en fait avoir non pas une récession mais une expansion. Ça a donné lieu à un débat très important au moment de la crise de 2008 et surtout de la crise de 2012. Rappelez-vous, la Commission européenne, le FMI, Blanchard, avec une remise en cause complète des travaux d'Alesina. Ensuite, il a été démontré qu'en fait,
qu'il a approfondi
tout un tas de problèmes méthodologiques derrière, qui faisaient que, il y avait aussi plein de situations où, quand on baissait les dépenses, ça réduisait l'activité et ça pouvait le faire de façon très forte à la fois à court terme, mais le FMI est allé plus loin aussi à long terme. Par ailleurs, n'oublions pas le contexte. On est dans un contexte de changement climatique et on sait aussi que s'il n'y a pas un certain nombre de dépenses publiques qui sont faites pour le changement climatique, les conséquences en seront catastrophiques et on en voit des exemples tous les jours. Quand on n'entretient pas les infrastructures, les autoroutes se fissurent, les autoroutes s'effondrent, les régions sont inondées, les maisons sont...
Voilà. Oui, enfin, il y a des dépenses de fonctionnement...
Est-ce que la suite de votre raisonnement, Xavier, consiste à dire en fait l'inverse de ce que dit Gilbert, il vaut mieux monter les impôts...
À ça. Alors, après, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est celui dans lequel on est depuis la crise du Covid, la crise énergétique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, ce contexte, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'on a fait du quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, ça a été de dépenser énormément d'argent, bien plus que nécessaire. Mais, en fait, c'était tout à fait justifié par l'urgence. Et probablement, si on avait radiné à ce moment-là, on aurait eu des conséquences négatives tout à fait déplorables. Donc, le fait qu'on ait dépensé sans compter était important, mais on a dépensé sans compter.
Dans un contexte.
Oui, dans un contexte particulier. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que l'épargne, par exemple, des ménages est considérable, suite à cet épisode. Pourquoi elle est considérable ? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dépensé n'a pas été nécessairement utile et nécessaire et n'a pas été dépensé par un certain nombre d'acteurs. C'est vrai pour des ménages, c'est vrai dans la restauration, par exemple. Je veux dire, ça serait, par exemple, un très bon moment pour réaugmenter la TVA dans la restauration, précisément parce que la restauration a été massivement aidée et qu'on sait que sur les bilans des entreprises de restauration, l'effet, il est encore positif et il est encore là.
Finalement, je ne peux pas...
Terminé, Xavier.
Dans cette période post-quoi qu'il en coûte, où on est à dépenser sans compter, dire on va récupérer de l'argent par des augmentations d'impôts ciblés, éventuellement temporaires, me paraît pas une mauvaise chose. Ensuite, mettre à plat la fiscalité pour
le
soit plus
juste. On le fait un
peu
hein, sur les autoroutes, on le fait sur les énergéticiens.
On le fait un tout petit peu sur les énergéticiens, mais on pourrait le faire de façon beaucoup plus généralisée. Après, remettre à plat la fiscalité, ça c'est toujours bien, mais il faut pas oublier que les dépenses ont aussi un effet positif, que ce soit dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé,
absolument,
et dans le changement climatique. Et là, la liste, elle est longue. Donc,
je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit d'abord par rapport aux
Leonidas,
parce que je trouve que de vouloir avoir un modèle économique.
Ça, là, 2025, ses choix vont être encore plus complexes qu'en 2024.
Non, mais j'entends
chaque
bien...
fois qu'on va chercher des milliards en plus, il y a un moment, les milliards de réserves, on leur
limite. Ça me donnera l'occasion de rebondir sur la part des entrepreneurs dans les JO, mais vouloir, comment dirais-je, envisager de relever la TVA sur les restaurateurs alors qu'ils sont confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, avec pour un certain nombre d'entre eux une situation absolument dramatique où ils se demandent de mois en mois s'ils vont réussir à tenir et à maintenir leurs exploitations, je trouve que c'est le danger des raisonnements théoriques. Et pardon, mais sur les dépenses de l'État, on peut bien entendu regarder uniquement les dépenses d'investissement, et c'est formidable, et les dépenses pour la santé et pour l'éducation, mais il y a tellement de dépenses de fonctionnement qui sont des milliards, dont on se demande s'ils ne freinent pas l'économie plutôt que la favoriser, qui me semble qu'il y a là des gisements dont on aurait tort de ne pas essayer de les rechercher. Puisque je disais un mot sur la restauration, peut-être juste un mot par rapport au rôle des entrepreneurs dans la période des JO, parce qu'on a cette période qui va arriver, et vous savez qu'ils n'arrivent pas à embaucher, et il va bien falloir accueillir des millions de visiteurs en France avec des restaurants qui n'arrivent pas à servir parce que ils n'ont pas trouvé de quoi comment dirais-je avoir des salariés avec des CDD ou des CDI, parce que il s'avère que ces emplois ne sont pas pourvus. Les emplois en auto-entrepreneurs, il y en a en quantité, et vous savez qu'il y a là un gisement très important, et on a fêté très récemment les 15 ans des auto-entrepreneurs qui avaient été lancés par Hervé Novelli, et il y a une tribune qui a été signée par le GHR, France Digital et la Fédération des auto-entrepreneurs, où ils demandent au moins...
Dans l'opinion.
Dans les échos. Oui, qu'au moins durant cette période des JO, on sanctuarise le fait de pouvoir recourir aux auto-entrepreneurs sans que ça puisse être qualifié, pour que au moins tous ces emplois puissent être pourvus et que l'on puisse accueillir les JO. Et là, véritablement, si on ne le fait pas, alors je ne dis pas si on en met, on augmente leur TVA par la même occasion, je pense que ça sera la mort du petit cheval, mais en l'occurrence, qu'on leur donne la possibilité d'y recourir, c'est probablement la meilleure manière d'apporter cette flexibilité nécessaire pour que les JO soient
réussis. Vous appelez à une sorte d'assouplissement temporaire des conditions.
Mais vous savez, il y a les règles qui sont, qui sont acceptables pour employer des auto-entrepreneurs, et puis vous avez la réalité du terrain, qui est que quand vous avez l'inspection du travail qui vient dire, vous savez, vous n'avez pas le droit de le faire, les gens ne le font plus. C'est pas qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas si c'est autorisé ou pas, mais la peur d'une requalification est telle que on préfère ne pas y recourir. Donc ça fait partie de ce qui pourrait effectivement être sanctuarisé, au moins pendant la période des JO.
Gilbert, vous vouliez réagir sur...
Bien sûr, faut pas... Il n'y a pas les dépenses, un gros paquet dépenses d'un côté, un gros paquet impôts de l'autre. Il y a des dépenses qui sont très productives en termes de croissance. Il y a des impôts qui sont particulièrement négatifs en termes de croissance. Je pense que, quand même, que pour la TVA restauration, la TVA réduite, on dispose maintenant de quelques évaluations qui nous montrent que l'effet a été très très marginal pour un coût très élevé. Donc c'est un point qui est important
quand
à dire.
Pour les dépenses,
je voudrais juste prendre un exemple.
Je voudrais juste prendre un exemple.
Et laissez-moi 30 secondes.
Il a été décidé qu'au 1er janvier, les retraites seraient revalorisées comme l'inflation, alors que les salaires ont perdu en moyenne, hein, sauf le SMIC, sauf les salaires les plus bas, ont perdu du pouvoir d'achat sur les deux dernières années. Il a été décidé de revaloriser donc les salaires, les retraites, de 5,3%, sachant que même que les partenaires sociaux ont été plus prudents, 4,9%. Pour Agirc-Arrco. C'est quand même un coût phénoménal, hein, cette revalorisation. près de 15 milliards d'euros. Oui. On n'est pas loin d'une quinzaine de milliards d'euros. Quand on va gratter après quelques centaines de millions d'euros pour sur tel ministère, sur des budgets de fonctionnement, ça dégrade la qualité du service public. La dégradation de la qualité du service public, ça peut être une perte énorme. Je pense à cette mesure qui, auquel heureusement on a renoncé après l'avoir évoquée, les heures supplémentaires dans l'éducation nationale. C'est une dépense, elle, qui est très productive. C'est peut-être dans l'éducation nationale la dépense la plus redistributive. Ça permet de sauver parfois des élèves qui, pour des événements familiaux un peu dramatiques, sont en perdition. Ça permet de les sauver. C'est 600 millions auxquels on a d'économies auxquelles on a renoncé sont très productives. Donc, bien sûr, dans les dépenses, il y a différents volets à voir. Mais on peut se dire, rétrospectivement, que les presque 15 milliards d'euros de revalorisation des retraites et de maintien de leur pouvoir d'achat, alors que ça n'est pas le cas pour les salaires et les salaires moyens, c'était peut-être une erreur
à faire. Non, mais j'entends que vous considérez peut-être qu'il est temps de se reposer la question de la TVA dans la restauration. J'entends aussi ce que dit Léonidas, que la totale indexation des pensions de retraite sur l'inflation, qui est un choix politique, va peut-être trop loin. Et puis ces fameux 10% d'abattement pour frais professionnels quand on est retraité, est-ce que ça a du sens? Non, mais il y a plein de choses dans ce
qu'on peut dire. Il y a des postes de dépenses qu'on peut revoir.
Xavier Tambon, on a une minute. Vous vouliez réagir à quel sujet, là?
Non, juste pour dire, oui. L'augmentation de la TVA, oui. Imaginons qu'on la fasse maintenant à l'occasion des JO. L'inflation JO va être bien supérieure à tout ce que la TVA pourrait produire comme effet inflationniste. Parce qu'il y a une inflation JO quand même.
Bah, sur le logement.
Le logement, sur la restauration aussi.
Sur la restauration, je ne suis pas certain qu'il y ait une inflation JO, mais en tous les cas, c'est que l'on soit capable de répondre à la demande, ce qui déjà suppose que les entreprises soient capables d'embaucher. Et pour le moment, c'est le mur sur lequel ils butent.
C'est une mesure redistributive, par ailleurs, il faut bien voir ça.
Bah oui.
Je veux dire, dans le revenu des ménages, la part de dépenses en restaurant est croissante avec le revenu. Donc, faire sauter cette réduction, cette TVA à taux réduit dans la restauration, c'est redistributif.
Le problème, Gilbert, c'est que quand on décide de baisser la TVA dans un secteur, évidemment, une bonne partie va aller dans la marge du producteur. Par contre, si on la lui remonte, la TVA, une bonne partie va aller dans les prix, cette fois-ci.
C'est redistributif. L'abattement de 10% sur les retraites, pour frais professionnels,
c'est
quelque chose qui est redistributif. Puisque 55% des ménages ne sont pas
dans la restauration, on a établi une règle de protection sociale et d'accompagnement.
Alors, quand il continue comme ça, moi je m'approche du micro.
Et
je mets fin à l'émission sans qu'il s'en rende compte.
Bon,
on a fini, Léonidas.
On la prolonge jusqu'à
non,
demain
mais
matin.
Là, non, mais c'est pas possible. Donc, c'était le Léonidas que le jour.
Oui,
mais si vous voulez. Dans demain matin, j'ai des gens déjà.
On va les appeler. On va leur dire.
Il manque quelqu'un vendredi. S'il y en a un qui veut se coller vendredi ici, avec plaisir. Parce que moi, j'ai une semaine normale, messieurs. Même le 8, même le 9.
Et nous donc, cher.
Voilà, Gilbert Sept, Léonidas Kalogiropoulos, Xavier Timbo, demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.